bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce soir, on va parler de patins, de crosses, de palets et de gants, ou de rondelles comme on dit au Québec. Mais on ne parlera pas de La Castagne, un film avec le grand Paul Newman sorti en 1977 sur un coach-joueur qui essaie de remettre sur pied une équipe de hockey sur glace, une comédie dramatique sur fond de sport. Dans la bande-annonce, il y a la bagarre, les groupies... La bagarre, je vous jure, il n'y a que ça. Le héros, ex-grand joueur qui n'a jamais rien gagné, se projette dans un projet beaucoup trop important pour la victoire. Puis la bagarre, la police, la formation, la bagarre. Bref, ça vend la bagarre comme moteur de réussite et de domination pour gagner sur la glace. Un film de son époque que vous retrouverez en DVD ou Blu-ray. Alors nous, on va plutôt parler de ce sport, jouer sur une patinoire avec deux équipes adverses de 6 patineurs, chacune qui tente de faire entrer une rondelle, ou plutôt un palet, dans le but adverse avec des ballons inclinés. Le hockey sur glace, bien sûr. Nous brosserons ensuite le portrait de la légende canadienne Marie-Philippe Poulin, dit Captain Clutch. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons librement de l'évolution de l'image des sportives à travers le temps. Pour cet épisode, je serai extraordinairement accompagné de Sandrine, dite la nageuse du croissant du matin du 60. Ça va, Sandrine?
Oui, alors je vois pas ce que le croissant il a à voir avec la nage, mais oui, ça va. Et toi?
Ça va très bien, le croissant, le petit déjeuner. Où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention, c'est l'épisode 14 de la saison 2. Chers auditeurs, auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler de la bagarre, mais sur la glace, bien sûr. Alors, on va discuter de hockey sur glace, un sport particulier, un sport stigmatisé par la bagarre.
T'aurais dû en faire une touche, tu sais, sur un truc, et puis t'appuies à chaque fois, ça fait la bagarre.
Ah ouais, Dubosc, c'est lui, j'aurais dû le mettre, c'est vrai. Cette idée particulière de penser qu'un match de hockey se résume uniquement au moment où l'arbitre autorise deux joueurs à se mettre littéralement des pains de boulangerie du sud-ouest sur la tronche. Car oui, c'est un peu l'image qu'on peut en avoir, mais le hockey, ce n'est pas que ça. Alors, pour rappel, il faut sans cesse patiner en équilibre, manier la crosse comme un crack et surtout réussir l'exploit d'envoyer un palet d'une taille de 2,5 cm d'épaisseur pour un diamètre de 7,5 cm pour un poids de 156 à 167 grammes dans le but adverse d'1,80 m de longueur sur 1,80 m de hauteur, gardé par un gardien avec un équipement de ouf robuste. Donc mettre ce petit palet à l'intérieur de ce but reste un exploit. Moyenne d'un tir professionnel, ma chère Sandrine, pouvez jouer chez vous. Quelle vitesse?
Ah, tu t'es pas trompé dans les proportions du but parce que...
Non, ça, 1,20 m de longueur... Ah pardon, 1,80 m de longueur, 1,20 m de hauteur.
Merci, oui. Ouais.
Merci.
J'allais dire, et c'est petit quand même.
Non, c'est vrai. C'est 1,80 m de longueur, 1,20 m de hauteur, ce qui fait que déjà, quand t'as le mec avec tout son attirail de gardien, il faut vraiment être un crack pour mettre le palet.
Alors pour le coup, comme on parle de hockey féminin, c'est plus la meuf dans ses buts que le mec.
Un gardien, une gardienne, bref, la personne qui garde les buts.
Donc la question, c'était la vitesse.
La vitesse d'un tir professionnel avec un palet ou rondelle, comme on dit au Québec.
Je pense que pour certaines personnes, ça doit être... Enfin, certains athlètes doivent l'envoyer relativement vite. Mm-hmm. Mais alors, franchement, la vitesse, je sais pas. Je suis en train de penser au tennis, mais je pense pas que ça soit de la même.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Allez, vas-y, propose.
Je dirais... Dans les 100 km/h.
Pas mal. Un tir moyen d'un professionnel, c'est 123 km/h de vitesse.
Ouais, donc ça revient à peu près au tennis, en fait.
Et le record du monde, qui a été fait en 2012, c'est 175 km/h.
Waouh. Eh, mais t'imagines la nana qui est dans les buts, là?
Imagine. Faudrait le défenseur qui le prend dans le dos.
Ouais, oh oui, j'avoue.
Ils ont un casque, c'est pas pour rien, hein, vous savez. Et juste avant de développer ce sport si spécial mais très cher au cœur de MacGyver, Jingle Bush auto-promo. Alors vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi, c'est maintenant de 19h à 20h, mais aussi le mercredi en rediff de 17h à 18h. Nous sommes bien en direct comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de réfléchir à comment vous débarrasser de ces cadeaux de Noël que vous recevrez alors que vous n'en voulez absolument pas, ou à préparer votre winter body à base de saumon, foie gras, huître et j'en passe, vous pouvez aller sur Google, taper Aligre FM Podcast, c'est gratuit, écoutez l'émission championne. Il y a aussi l'huile sur le jeu, il y a aussi l'étincelle dans la ville, cappuccino, les arènes de l'écologie, radio scénique, chacun son tempo si vous aimez la musique. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont tous en ligne. Et c'est dans les temps. Et pour ça, applaudissements. extraordinaire. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @championunderscore l'émission. On va prendre un petit instant déjà. Comment ça va cette semaine, Sandrine? Des conseils pour gérer le tonton un peu lourd pendant le repas de Noël?
Il faut le mettre à l'autre bout de la table. Comme ça, on ne l'entend pas. Et au pire, si jamais vous avez des cartons où il y a votre nom, vous échangez avec quelqu'un d'autre. Mais à l'autre bout de la table, parce que sinon, ça risque de partir en cacahuète.
À l'autre bout de la table, toi?
Ah ouais, comme ça, tu ne l'entends pas.
D'accord.
Moi, bon, alors, si tu l'entends, mais tu l'entends de loin, tu vois. Donc, tu as d'autres personnes avec qui converser.
Voilà. Moi, personnellement, je le mets avec les autres gens lourds. Ça...
Bah généralement, en fait, dans les familles... alors attention, voilà, c'est ça, il n'y en a qu'un. En tout cas, un bien conséquent, tu vois.
Il prend beaucoup de place.
Vraiment. Alors que pour le coup, en fait, je suis en train de réfléchir comme ça, mais dans la mienne, j'en ai pas.
Mais c'est bien.
J'en ai eu, j'en ai plus.
Ah, voilà. Applaudissements. Si on a des applaudissements à un moment donné, on peut tenter un truc peut-être.
Attention, elle n'est pas décédée la personne, elle est toujours en vie, c'est juste qu'elle n'est plus dans ma vie.
D'accord.
Mais y en a plus. Je ne lui souhaite pas du mal à qui que ce soit.
Mais il n'y en a plus, c'est l'essentiel. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à l'invitation, ma chère Sandrine. Un petit coucou à Camélia, Mélanie, Elodie et Chai qui nous écoutent. Bien sûr,
coucou.
Dédicace à Diego Armando Maradona. Bien sûr, à la régie ce soir, il est présent. Applaudissements pour lui aussi, évidemment. Alors, on en arrive aux questions de la semaine. Alors, merci à toi, Sandrine, d'avoir trié, comme chaque semaine, ces 9999 emails, dont 9998 spam.
Si tu savais le temps fou que ça me prend.
Pour nous envoyer un message, c'est championne@aligure.org. Message cette semaine de Misomito, OOO43. Bonjour, j'écoute votre émission et je ne comprends pas pourquoi on parle autant des femmes. Alors, merci pour ce message, Misomito, OOO43. Néanmoins, si vous ne voulez pas entendre parler de femmes, vous n'êtes pas du tout au bon endroit.
Non, c'est clair.
On va donc jouer à un jeu cette semaine. Ça s'appelle Première femme. Je donne une info, vous pouvez jouer chez vous, vous pouvez jouer dans la régie. Vous devez me dire vrai ou faux, d'accord ?
C'est le moment où je pars, c'est ça ?
Non, tu vas jouer. Alors pour la régie, c'est facile, hein, un pouce en l'air, un pouce en dessous, on est bon. Je donne une affirmation,
tu m'aides, hein.
Vous me dites c'est vrai ou faux. Attention, la première femme à obtenir un doctorat de droit et à enseigner dans une université, c'est en 1239. Vrai ou faux ?
1239 ?
La régie dit vrai. Sandrine, positionnement.
Ah, 1239, ça me paraît tôt, non.
1239, c'est au XIIIe siècle.
Ouais, ça me paraît. Je pense beaucoup plus tard, donc je dirais faux.
Eh bien, c'est vrai. Les États pontificaux, le Vatican, un point pour la régie. C'est Petitia Gozzadini, en Italie. Deuxième affirmation. La première femme bachelière en France, 1946.
Je pense que c'est vrai.
1946, vrai pour Sandrine. Il faut se positionner. Faux. Eh bien, c'est un point pour la régie à nouveau, mesdames et messieurs.
Moi, je vais suivre tout ce qu'il va dire maintenant.
En 1861, Julie Victoire Daubé, est la première bachelière française.
1861.
Tout à fait. Troisième affirmation, la première femme à effectuer un tour du monde toute seule. 1905, vrai ou faux ? Alors ?
C'était relativement tôt, je crois.
Vrai là-bas pour un 1905 ?
Ouais, je pense aussi, ouais.
Vous dites vrai ? Eh bien, c'est faux. Ida Pfeiffer, autrichienne, 1847, mesdames et messieurs. Elle voyage seule et écrit de nombreux ouvrages de voyage. Attention, la première femme à avoir un prix Nobel de physique en 1903. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors, il y a eu, mais 1903 ?
Oui.
Non, je dirais que c'était avant.
Alors, là, on a 1903, donc on a un faux. La régie est en train de vérifier sur Internet. la régie, je ne sais pas. Eh bien, c'est vrai, Marie Curie, Cocorico, 1903,
oui, mais tu vois,
prix Nobel de physique.
C'était un petit peu avant. Je pensais que c'était... Je pensais à elle,
ouais.
Mais je pensais plus un petit peu avant 1900.
Un petit peu avant.
Un petit peu avant.
Un petit peu. 1903. Et attention, avant-dernière question. La première avocate assermentée en France... Est-ce en 1900 vrai ou faux ? On a un faux pour la régie.
La première avocate assermentée,
ouais,
en France en 1900 ?
Ouais.
Non, je vais suivre la régie, c'est faux.
Eh bien, c'est vrai. Olga Petit. Allez, je vous en mets une dernière pour vous refaire quand même, parce que c'est très drôle. Alors, attention. L'humain qui a vécu le plus longtemps était une femme.
Ah, ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Évidemment, Jeanne Calment, Cocorico, c'est vrai, 122 ans, 164 jours, du 21 février 1875 au 4 août 1997.
T'as vu, j'ai pas eu d'hésitation là, t'as remarqué ou pas ?
Ah bah oui, bah j'ai vu. Eh bien, c'est le moment où vous faites semblant d'applaudir. Merci d'avoir écouté. bravo. J'espère que vous avez joué chez vous et que vous avez gagné quelques points ou au moins appris un petit truc.
Oui, j'espère que vous avez été meilleurs que nous. Parce que...
parce qu'on peut toujours sortir ça au repas. Marie Curie, prix Nobel de physique, 1903.
Non, mais en fait, ces gens-là, ils comprennent pas. En fait, ils sont dans leur truc et je pense que c'est leur show. Donc, ça sert à rien de converser avec eux, de leur expliquer.
Toi, tu parles du tonton.
Oui.
Non, moi, je te parle des gens civilisés.
Ah.
C'est entre du foie gras et le caviar.
Je crois qu'on était resté bloqué sur le tonton, le cousin. Parce qu'attention, parce que maintenant, ça peut être le petit cousin ou quoi. Parce qu'avec les masques muscu qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux, ils peuvent être jeunes plutôt que anciens comme avant.
Ça peut être le frère ou le cousin, effectivement. C'est pas faux. Alors, on repart sur le sport. Le hockey sur glace, comment ça marche? Qui c'est qui je suis, le hockey sur glace? Bientôt un stage intensif de lancer de matcha sur masque muscu, Sandrine. Pareil que tu t'es inscrite.
Non, mais je leur lance pas que des matchas, je leur lance tout ce que je peux. Surtout mon ignorance et mon indifférence.
Je citerai donc que le rail de vos insultes roule sur le rail de mon indifférence.
Voilà.
Georges Abitbol, on t'embrasse. Le hockey. Alors, pour commencer, le hockey sur glace, appelé le plus souvent hockey. Rien à voir avec le hockey américain, mais
non, rien à voir. Voilà.
Est un sport d'équipe qui se joue sur une patinoire noire spécialement aménagée. L'objectif de chaque équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, est de marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc qui est appelé palet chez nous ou rondelle, comme on dit au Québec, à l'intérieur du but adverse.
J'avoue, ça le fait quand tu dis j'ai mis la rondelle dans les buts.
Non, c'est.
Enfin, s'ils appellent ça les buts, je pense que c'est les buts.
Non,
enfin,
la rondelle, c'est le palais. Mais oui, les buts, ça ne change pas. Ça,
donc,
c'est...
ils mettent la
goals.
Rondelle dans les buts.
Ils mettent le goal dans la rondelle dans le goal. Un peu scabreux.
Ouais, c'est un peu bizarre.
Voilà. Donc, sur la patinoire, ils sont 5, avec des attaquants, des défenseurs. Il y a un gardien de but, bien équipé, bien sûr. Ils ont tous des patins à glace. Ils doivent manier, évidemment, la crosse. Ils ont des gants, ils ont le casque, très important. On peut dire aussi qu'en France, en Belgique, en Suisse, on pratique le hockey, mais ce hockey est originaire d'où, ma chère Sandrine?
Du Québec.
Je te donne un indice, effectivement, ça vient du Canada.
Bah, en même temps, ça, c'est normal que ce soit les pays où potentiellement ils ont accès beaucoup plus facilement à la neige ou à des lacs gelés qui créent ce sport-là, en fait.
C'est exactement ça. Alors, le hockey est originaire du Canada, s'est développé à la fin du 19e siècle en Amérique du Nord, sport de vitesse. Parce que pour envoyer à 175 km/h ou 123, il faut y aller. Il est souvent qualifié de sport collectif le plus rapide du monde, mais c'est aussi un sport de contact, voire violent, avec des mises en échec parfois dangereuses. Il est vrai que lorsque deux joueurs s'embrouillent au hockey, et c'est un des rares sports où on a le droit de le faire, ils enlèvent leurs gants. Et tant qu'ils sont debout sur leurs patins, ils ont le droit de se tabasser à partir du moment où l'arbitre dit « ok ». D'accord. Et ça, c'est les bagarres.
Il a dit « ok »
Il a dit
« ok ».
Ok. Et ils se tapent dessus. Alors, il faut savoir évidemment que le hockey féminin, ils ont le droit de se taper, mais elles sont exclues du match. Ce qui n'est pas le cas des garçons.
C'est pas cool, on sait se taper, nous aussi.
Bah, apparemment, oui, parce qu'elles sont virées du truc. Alors, Lord Stanley, puisque aux États-Unis, le trophée s'appelle le trophée Stanley pour la NHL, la National Hockey League.
Il n'y a pas la Coupe Stanley pour un autre truc?
Non, c'est pour ça, c'est pour le hockey.
Ah, ok.
Parce que toi, tu penses au... Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'équipes de hockey en Amérique du Nord et aussi au Canada, puisque la Ligue regroupe ces deux pays. Donc, on va jouer au Québec, on va jouer à Vancouver, mais on va jouer aussi à New York et autres. Et Sandrine a une équipe préférée, celle de Pittsburgh, les Penguins.
Les Penguins.
Ça, c'est une bête d'équipe, je vous invite à regarder un peu. Donc le trophée Stanley. Alors qui c'est Stanley? Stanley en 1888, c'est le nouveau gouverneur général du Canada, Lord Frederick Stanley. Et sa famille découvre le hockey au Carnaval de Montréal. Ils deviennent passionnés, construisent une patinoire à Rideau Hall, Ottawa. Sa fille, Isobel Stanley, participe au premier match féminin de hockey jamais documenté de l'histoire. Son fils Arthur et Algémon, oui, on est en 1800 et quelques, on voit les prénoms. Si vous voulez appeler votre enfant Églantine ou Algémon, n'hésitez pas. Algémon. Oui. Et créant les Rideau Hall Rebels, ce qui aide à populariser le hockey au Canada et jusqu'aux États-Unis.
Oui, c'est populaire aux États-Unis.
Grâce aux Canadiens, c'est eux qui ont importé ce sport. Enfin, exporté, pardon. Du coup, en 1882, convaincu par ses fils, Lord Stanley offre une coupe en argent destinée à récompenser la meilleure équipe du Canada. La future Coupe Stanley. Pour $50, elle est en argent. Et le but, c'est que quand tu la gagnes, tu la remets en jeu au prochain tournoi et c'est la même coupe qui passe de club en club.
Ah ok, ils n'en refont pas une à chaque fois.
Non, c'était ça à la base. Après, ils ont peut-être changé depuis. Il faut savoir que le hockey s'étend donc au Canada. En 1890-1900, c'est à Ottawa, Montréal, bien sûr.
Ouais, mais est-ce qu'il y en a dans les pays scandinaves ?
Oui, d'ailleurs j'allais y venir. La France est le premier pays européen à adopter le hockey en 1892, sous l'influence du baron Pierre de Coubertin. Célèbre, les Jeux Olympiques, bien sûr. La création du Hockey Club de Paris en 1894 aide à ça. 1908, fondation à Paris de la Ligue internationale de hockey sur glace, la LIHG, qui est l'ancêtre de la IIHF, qui est aujourd'hui la Ligue internationale de hockey.
Faut qu'ils arrêtent avec ces acronymes, parce qu'en fait, ils mettent tellement de lettres que ça devient. On a du mal à les dire, en fait.
Je suis assez d'accord. Les premiers championnats nationaux sont. France en 1906-1907, pardon. La Suisse en 1908, la Belgique, l'Autriche en 1809 également. Ouais. 1910, le premier championnat d'Europe remporté par le Princess Club de London. Et oui, les Anglais et les Anglo-Saxons rentrent dans le truc. Comment ça, on a inventé un jeu, on n'est pas au courant, qu'est-ce que c'est cette histoire ?
Surtout qu'ils ont inventé pas mal de jeux.
Exactement.
Enfin, pas mal de jeux, de sports.
C'est ça. Donc du coup, évidemment... L'expansion du hockey, c'est les années 1920-1930. On en arrive évidemment à les femmes au hockey. Les femmes sont admises aux Jeux Olympiques qu'en 1998, lors des Jeux de Nagano. Plus d'un siècle après les débuts du hockey organisé. Eh oui, vous êtes arrivées les filles, mais un peu plus tard. C'est important.
Sincèrement, es-tu étonnée ? Moi, je ne le suis pas.
Pas tant que ça. Pour les compétitions, c'est important de préciser, les ligues nationales avec leurs championnats et qui finissent souvent en play-off, il y en a quasiment partout aujourd'hui. Les championnats du monde masculin existent depuis 1954 et sont devenus annuels à partir de 88 et s'effectuent au mois de mai. En 1990, le premier championnat du monde pour les filles voit le jour, et depuis chaque année. Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est tous les 4 ans depuis 1920 avec les règles modernes 1924, mais il faut attendre 1998 aux USA pour que les filles viennent sur la glace. Et oui, donc il y avait déjà des championnats
c'était
du monde féminin
le bruit
avant.
Des patins sur la glace, le chui.
Oui, je suis bruiteur. Le bruitage. Pour la création évidemment de la Professional Women's Hockey League, elle existe depuis 2023, parce qu'en fait il y a eu des ligues avant, mais elles ont été absorbées, souvent le cas aux États-Unis, absorbées, machin. Et aujourd'hui c'est la ligue,
il y avait plusieurs ligues et ils ont toutes regroupées dans
tout
une
fusionné,
seule.
Ouais. Ouais. Et il y a 8 équipes, 4 canadiennes, 4 américaines. Alors, d'après toi, combien y a-t-il de licenciés en France avec la Fédération Française de Hockey sur Glace créée en 2006 ? Vous pouvez jouer chez
en
vous.
En France, je ouais. dirais... Au pif, je dirais...
Déjà, plus de 485 du curling, je te le dis.
21 000.
Oh, très beau chiffre. Eh bien, il faut savoir que 25 324 licenciés, dont 3 306 femmes, font du hockey sur glace licenciés. Et depuis 2006, c'est plus 48% de licenciés. Ça fait x2. En espace de 20 ans.
Ouais. Ah ouais.
Donc c'est pas mal
c'est
du
bien.
Tout. Il y a 4 championnats seniors de division et 1 championnat féminin. Et il y a combien de clubs ? Allez, comme ça.
Où ça ? En France ?
En France.
180.
117 clubs. Vous pouvez, à partir de 10 euros, faire des licences découvertes et apprendre le hockey. Vous pouvez commencer dans un club à partir de 9 ans, c'est à peu près 45 euros. Les licences pro ou adultes, on est plutôt aux alentours de 95 euros. Et pour s'acheter les équipements ou en tout cas les faire louer par votre club, c'est minimum 500 euros par an. Donc si vous voulez faire...
Le matériel, je pense que ça doit valoir un certain prix quand même. Ouais.
Donc vous pouvez effectuer ce sport niche, il n'y a aucun problème. C'est de la précision, de la stratégie, de la bagarre. C'est possible, mais il faut quand même mettre 500 euros par an sur la table. Et il n'y a pas n'importe où des clubs, il faut quand même chercher.
Et puis je pense qu'il y a des déplacements aussi
oui,
à prévoir.
Tout à fait, dans les petites ligues, selon votre division, effectivement. Et maintenant, on va s'écouter de la musique créée et pensée pour devenir meilleur au sport d'hiver. Attention, il faut deviner le film. Donc une musique pour devenir meilleur au sport d'hiver quand on part entre potes sur les pistes. Avec un ou deux amis qui ont trouvé le plan de moniteur de ski. Des aventures culinaires extraordinaires comme la liqueur de crapaud. Et évidemment, le blocage sur un télésiège. Que pourrait-il mal se passer ? Peut-être devoir dégeler la serrure de sa voiture en urinant dessus et s'apercevoir que ce n'était pas la sienne. À vous de deviner le film. Musique maestro.
Allegre FM 93.1.
da-da, doubidoua. Est-ce que je suis en cadence?
Je sais pas. En tout cas, je sais que tu chantes faux.
Merci.
Bonjour à nouveau. Mais comme beaucoup de gens.
Ah bof. Bonjour à nouveau, auditrice, auditeur. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission Championne qui traite du sport féminin et des gens qui chantent faux. On vient d'écouter un titre légendaire, Pierre Bachelet, Because of You, sous la date de novembre 1979. Ce qui fait donc du film, un film de Noël, et qui était...
Les Bronzés font du ski.
Bon, pas la bonne réponse par ici, et je suis sûr que vous l'avez eu chez vous. La troupe du Splendide avec Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazet, Christian Clavier, Michel Blanc, liste non exhaustive, et Thierry Lhermitte. Attention, anecdote Sandrine, Thierry Lhermitte dans Les Bronzés.
En fait, ce qui se passe, c'est que ce film et les autres qu'ils ont fait par la suite, même celui qu'ils ont fait des années plus tard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai dû le regarder un nombre incalculable de fois puisque mon père est le sosie de Monsieur Lhermitte.
Exactement. Et maintenant qu'il a plus de cheveux, moins, mais avec des cheveux, c'est vrai que c'était le même. Ça, oui. je peux valider. Alors, l'histoire, à la base, le réalisateur Patrick Lecomte ne souhaitait pas faire de suite, comme d'ailleurs tous les acteurs, puisque le premier film était de 1978. Le producteur, par contre, Yves Roussel-Rouard, voyant le filon, veut convaincre les acteurs et il trouve une technique extraordinaire. Pour le premier film, ils étaient payés 10 000 francs chacun. Pour le second, il leur en propose 650 000 chacun.
Ah ouais, d'accord.
Il voulait vraiment faire la suite.
650 000 chacun.
Chacun, chaque acteur a eu...
En non fait, mais attends, ils sont au moins 6-7.
Bah, toute la troupe que j'ai dit là. Parce qu'en fait, leur but,
c'était
qu'ils aient le même cachet.
Il avait vraiment envie qu'il y ait un... Ouais. Une
suite. Ça avait été négocié par la troupe. Ils ne voulaient pas qu'il y en ait un qui ait plus que les autres. Donc, c'était tous le même montant.
C'est très bien. Surtout que c'était bien écrit. C'était drôle sans être... tu sais, les trucs un peu lourds ou quoi que ce soit. Non, franchement. Après, ça va avec les années. C'est
tout
les blagues qui vont avec 70, le temps. Mais non, c'était sympa.
Il faut savoir que Damien... L'ami qui vous veut du bien de quiz de foot a trouvé que c'était Pierre Bachelet qui chantait. Et ça, c'est très fort. Je tenais à faire cette parenthèse. Michel Blanc ne participe pas du tout à l'écriture du second volet parce que lui non plus n'est pas convaincu de l'idée de rempiler. Mais c'est pas grave. Ils vont quand même le faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'évolution des personnages entre 1 et le 2 est aussi conséquente puisque les acteurs ont dit pour le public, on doit leur présenter quelque chose de nouveau. C'est important. C'est pas juste les mêmes personnages qui vivent une autre aventure. Il faut qu'ils aient changé. C'est pour ça que leur situation personnelle change du premier au deuxième. Le premier film fait 2,3 millions d'entrées. Et le second, seulement 1,5 million. Ah là là, ça n'a pas si bien marché que ça. Néanmoins, il a réussi à devenir un film culte avec ses divers rendez-vous télévisés. Il faut savoir qu'il y a encore 5-6 ans, c'était 10 millions de spectateurs pour regarder ce film. Ce film est un classique.
Ah, mais dès qu'il passe à la télé, les gens, ils ont envie de le regarder, en fait. Ça fait partie des films... Tu sais, t'as des films comme ça... Bon, après, autre chose. Mais par exemple, moi, personnellement, j'adore le film Love Actually. Et en fait, pendant la saison de Noël, bah, je le regarde ce film, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, mais ça fait partie, pour le coup, pour moi, des classiques. Et chaque personne a des classiques, tu vois.
Et il faut savoir que s'il n'a pas si bien marché au cinéma, c'est parce qu'en face de lui, il avait un film Disney, Le Livre de la Jungle. Les gens préfèrent aller voir Le Livre de la Jungle que Les Bronzés font du ski.
Ça dépend si, en plus, c'est sorti pendant la période
avant
les fêtes.
À une semaine.
Avant les fêtes.
Bah, c'est 22 novembre pour Les Bronzés font du ski et l'autre, c'est 29 novembre, début décembre pour Le Livre de la Jungle. Donc ouais. En fait, un film qui devait rassembler la famille au cinéma, voilà, on connaît.
Oui, mais enfin, tu peux pas y aller avec tes enfants voir ce genre de choses, alors que tu peux aller voir avec tes enfants Le Livre de la Jungle.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Eh bien, reprenons. Aujourd'hui, mon nom est l'homme aux pieds frais de la Costa del Cimas del Cerco. C'est à vous de faire la traduction chez vous. On va demander à la Nuotatore Pui Veloce del Pinguino, ce qui veut dire la nageuse la plus rapide que le pingouin. Comment ça va?
Ça va toujours.
Dédicace à la régie comme d'habitude, Diego Armando Maradona bien sûr. Et on enchaîne avec la légende de la semaine, Marie-Philippe Poulain. Marie-Philippe Poulain, la captain clutch du hockey féminin. Marie-Philippe Poulain, dont vous n'avez jamais entendu parler peut-être, mais en tout cas qui est une star absolue. Née le 28 mars 1989 au Québec, à Beauceville au Canada. Marie-Philippe Poulain grandit dans une famille passionnée de sport. Très jeune, elle commence le hockey et se distingue par son talent et son leadership. C'est une joueuse de canadienne de hockey, évoluant dans la ligue professionnelle de hockey féminin dont on a parlé tout à l'heure.
La bagarre.
Purée, ça veut. Si tu me lances, ça me direct. Bagarre. Et du coup, elle est capitaine pour le Victoire de Montréal. Elle est aussi attaquante, très important. Et elle est aussi à la tête de l'équipe nationale du Canada pendant de nombreuses années. Il faut savoir qu'elle a une carrière longue comme le bras. Elle commence à gagner des titres à partir de 2009 en junior. Voilà, elle est championne du monde. Et elle ne s'arrête pas jusque cette année. Elle va aller faire sans doute les JO de l'hiver en Italie.
Parce qu'elle est, encore jeune comme athlète, donc elle a encore des années devant elle, je pense.
Alors, 89, nous sommes en 2025, ça fait combien ça? Ça fait 11, 36 ans.
Oui, elle a encore quelques années.
Oui, bah là, je pense qu'elle fait les JO, ça arrête. Hein. Donc, cette jeune fille, complètement ouf. Il faut savoir qu'au cours de l'automne 2007, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle fait ses débuts avec l'équipe nationale canadienne des moins de 18 ans en junior. Au cours d'une série de 3 matchs amicaux à Prince George en Colombie-Britannique, entre le Canada et encore une fois les États-Unis.
Ah, j'ai une anecdote avant celle-là.
Vas-y.
Que tu n'as pas cité dans tes recherches, peut-être. En fait, elle a commencé par le patinage artistique, mais ça ne lui plaisait pas. Elle n'a pas accroché et du coup, elle a essayé de trouver quelque chose qui était en lien avec les patins et elle est tombée sur le hockey.
La bagarre.
J'allais le faire, tu l'as fait trop vite.
Évidemment, la bagarre.
Je pense qu'elle préférait la bagarre. Ouais.
Et ben, elle préfère la bagarre. Alors, elle se dit... elle ne dispute que 16 matchs, mais elle marque 22 buts, 21 passes décisives. C'est énorme. Déjà, au moins 18... Elle est élue meilleure recrue de la saison dans la Ligue et elle termine deuxième du vote pour la meilleure joueuse de la Ligue. Bref, en gros, c'est une tueuse à gage. On continue. Marie-Philippe participe au championnat du monde à nouveau, mais cette fois-ci un peu plus tard. Elle est d'ailleurs prise à l'équipe du collège Dawson à Montréal dès 17 ans. Donc en fait, dans les ligues qui vont disparaître malheureusement. Elle fait ses débuts dans l'équipe nationale senior lors du championnat du monde 2009 à Hämeenlinna en Finlande. Faut le dire comme ça. Parce qu'il y avait trop de M et de E et de A.
Avec le petit air musical.
Hämeenlinna.
Voilà, il ne faut pas oublier.
Tadada, hi-hou. Alors.
Non, ce n'est pas la même région.
Ah merde, c'est vrai. C'est plutôt la Suisse. La Finlande, c'est un peu plus haut. Bah, ce n'est pas très loin, ça va. Il y a que,
je ne suis pas sûr que les Finlandais soient d'accord avec toi. Mais
ça va, ils ne m'en voudront pas. Je les embrasse. Elle remporte la médaille d'argent avec son équipe en championnat du monde. En 2010, elle aide l'équipe nationale senior à remporter les médailles d'or de la Coupe des 4 Nations en marquant un coup du chapeau dans un match contre à nouveau la Finlande le 12 novembre. Et je vais aller chercher son palmarès. Son palmarès est long comme un cactus. Donc du coup, il faut savoir qu'elle a participé aux Jeux Olympiques de Vancouver. Elle a gagné la médaille d'or. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Sochi. Elle a gagné la médaille d'or. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Elle a gagné la médaille d'argent.
Ah, mince. Oui. Ah, t'aurais pu prévenir, faire un signe, quelque chose.
En 2022, à Pékin, elle a gagné la médaille d'or. Et elle aura peut-être une médaille d'or en Italie bientôt. Ce sont ses derniers Jeux Olympiques.
C'est quand, d'ailleurs?
L'année prochaine, 2026.
Ok.
Elle marque, attention, c'est important parce que c'est pour ça qu'elle est clutch. Alors clutch, ça veut dire comme Steph Curry, pour ceux qui connaissent, c'est le joueur qui débloque la situation avec aisance, mais c'est grâce à lui, tu vois, il fait le tournant, c'est lui qui met le petit but de la victoire, c'est lui qui fait que l'équipe elle gagne, c'est le clutch, tu vois. Oui, c'est un anglicisme, me regarde pas comme ça, j'y peux rien.
Ah non, c'est juste parce que tu mettais au masculin, c'est juste pour ça que je te regardais comme ça.
Stéphanie Curry. Ça vous va? Je continue. Elle marque le but gagnant en prolongation dans les finales de 2010 et 2014. Donc Vancouver et Sochi, on ne gagne pas s'il n'y a pas Marie-Philippe Poulin. C'est elle qui met les deux buts de la victoire. Ce qui lui a valu au Canada les deux premiers titres féminins olympiques consécutifs qui n'existaient pas avant sa prise de fonction.
Mais c'est la seule à avoir 3 médailles olympiques. 3 médailles d'or olympiques.
Plus une quatrième en argent, tu as totalement raison. Il faut savoir qu'au championnat du monde, elle n'est pas en reste. Depuis 2008 en junior, elle prend l'argent et elle est médaillée 12 fois. 4 fois en or en première place, 7 fois argent, ce qui veut dire donc 11 finales. Et on continue une médaille de bronze de 2008 à 2024. Et en plus de 2024, eh ben elle a gagné quoi? La médaille
d'or.
Ah, extraordinaire.
Là, tu m'as fait un... là, c'était bien là.
Elle est extraordinaire, vraiment.
Mais non, mais sérieusement, elle est au-delà de son palmarès qui est dingue. Elle est hyper respectée dans son milieu.
Bah d'ailleurs, toi, tu as pu voir quelques vidéos de ses prestations.
Ouais,
qu'en as-tu pensé?
Alors, j'ai pas vu quelques vidéos, j'en ai vu une particulièrement où, parce que son poste est attaquante, donc ouais. Elle va vers le but avec le palais, parce que l'autre mot c'est un peu bizarre, mais...
La rondale.
Elle va avec le palais et du coup elle est, alors je sais pas si on peut parler un peu des mêmes termes que le foot, mais elle est dans la surface autour du but et bien évidemment elle va subir une attaque, la bagarre. En tout cas ils essayent de faire la bagarre et du coup elle fait un crochet et elle passe le palais à l'une de ses, coéquipières, pardon, qui, elle, se heurte à un mur. Donc, bagarre. Elle essaye malgré tout sa coéquipière de faire un tir sur le but. Le palais, en fait, est arrêté par la gardienne et donc repart. Repart, il arrive dans ses jambes, enfin, dans ses patins, en l'occurrence. Et en fait, elle est limite un genou à terre parce qu'en fait, elle est en train de tomber parce qu'elle vient de se faire entrer dedans par une autre joueuse de l'équipe adverse. Elle est en train de tomber, elle a posé un genou à terre et en fait, elle tire, elle marque. Il y a à peu près 4 ou 5 autres personnes devant le but, plus la gardienne qui est dans le but. Et malgré ça, elle qui est quasiment à terre, un genou à terre avec quand même la crosse qui est quand même assez longue, elle tire, elle marque en fait. Elle tombe à plein ventre sur la glace. Et voilà, la marque est fantée. Le truc improbable en fait. Et il y a lors d'une compétition, en fait, ça avait été posté sur Instagram. En fait, elle rentre sur la glace. Donc je ne sais pas s'ils font ça à chaque fois, mais. En fait, son nom est cité, elle rentre sur la glace et en fait, toutes ses équipières font un grand rond. Elle rentre dans le rond et en fait, elle est ovationnée par toute la foule canadienne. Ouais. Donc, j'ai trouvé que c'était fort et elle est humble, en fait. On voit qu'à un moment donné, elle dit « Bon, bah oui, c'est bon, vous m'avez applaudi, on peut passer à autre chose. »
Parce que la bagarre.
Parce qu'elle veut faire la bagarre. mais du coup, les gens, ils continuent à l'ovationner tellement, je pense que du coup, sa présence fait que je pense qu'elle peut complètement retourner un match et donc elle est ovationnée comme jamais en fait.
Ah non, c'est une légende, hein, vraiment pour le coup. Déjà deux fois le but gagnant en finale olympique pendant la prolongation 2010-2014, c'est déjà un délire. Elle est capitaine de l'équipe nationale canadienne, elle est un modèle pour toute une génération de joueuses. Sa capacité à performer sous pression inspire des milliers de jeunes hockeyeuses du Canada dans le monde, donc du coup... Il y a de plus en plus de jeunes filles qui se mettent au hockey sur glace. Déjà que c'est une tradition, mais là, tu as un exemple probant. Tu as une athlète, une championne. Donc forcément, ça fait augmenter le nombre de licenciés. Et ça veut dire qu'il y aura encore plus de performeuses canadiennes. Elle est ambassadrice du hockey féminin de par le monde, par son charisme, ses performances. Mais aussi, elle contribue à élever la visibilité du hockey féminin. Elle a participé à des événements, notamment des initiatives pour l'intégration des plus jeunes dans le sport, des gens défavorisés, la santé mentale aussi.
Oui, je pense aussi qu'elle elle met en avant tout ce qui est LGBTQA+, parce qu'elle est elle-même avec une femme en couple. Donc, je pense que ça fait partie des choses qu'elle a envie de mettre en avant.
Et aussi, quelque chose qui lui est beaucoup dit sur son compte, c'est qu'en fait, elle n'a pas peur de la pression. Elle est plutôt confiante avant les préparations. Je la cite. La clé, c'est la préparation. Je ne me concentre pas sur la pression ou le moment. Je fais simplement ce que j'ai fait des milliers de fois. L'entraînement. Donc en fait, elle rentre sans pression. Ça, c'est très rare chez les athlètes. Hein, réussir à ne pas se mettre une pression.
Ouais, mais je pense que comme tu dis, vu qu'elle milite pour tout ce qui est santé mentale, je pense qu'elle est elle-même suivie depuis qu'elle a commencé en junior. Donc elle doit avoir un entourage assez solide et potentiellement des coachs mentaux depuis un certain temps. Donc elle a trouvé un équilibre, une façon de se rassurer ou quoi que ce soit. Et peut-être que sa façon de dire que, en fait, elle est juste... comme si elle était en train de faire un entraînement, sauf que c'est un match, on gagne tant mieux, on perd tant mieux, mais en fait, elle se donne à fond sur le match qu'elle est en train de jouer, que ce soit une finale, une demi-finale ou simplement un entraînement avec ses collègues, en fait. Donc, c'est sain comme raisonnement.
Non, c'est bien, c'est jouer chaque match comme si c'était le dernier. Ça me rappelle Corneille, ça.
Ouais, je pense. C'était...
Voilà. Du coup...
mais dans Corneille, il n'y a pas la bagarre.
Il n'y a pas la bagarre. Elle a aussi, évidemment, poussé son entraînement entre l'équilibre, bien sûr, sur les patins, les côtés techniques, comme tu as dit, les crochets, mais la force et la stratégie. Elle dit elle-même dans une interview, tu dois être physiquement prête pour tous les aspects du jeu, mais la préparation mentale fait souvent la différence sur la glace, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, la bagarre, on essaie de déséquilibrer à chaque fois. C'est un truc qui est très physique et technique, hein, le hockey.
Mais c'est surtout comme en plus, elle a un poste d'attaquante, elle est sans arrêt en train de devoir braver l'équipe adverse qui essaye de la stopper pour pas qu'elle avance, et potentiellement, il faut qu'elle marque. Donc,
clairement, c'est son poste en plus.
Voilà, c'est son poste, donc il faut vraiment qu'elle marque, et visiblement elle tire très fort, parce que dans la vidéo que j'ai vue, en fait, il y avait des présentatrices, c'est des présentatrices qui parlaient sur le match de hockey, en tout cas sur les images que j'ai vues. Et en fait, quand elle marque ce fameux, elles ont pas l'air si étonnées que ça. Et en fait, elle dit que justement elle tirait très fort.
D'accord, ouais, elle a vraiment une puissance de tir qui la caractérise. Bah, du coup, je vais citer, je vais encore la citer. Dans l'interview, elle dit « Je ne joue pas pour prouver aux autres que je peux, je joue parce que je sais que je peux. » Ça, juste ça, ce genre de petit exemple, ça fait plaisir.
En termes de confiance, elle est bien.
Ouais, elle est très bien. Et son palmarès parle pour elle. J'avais jamais entendu parler de ces athlètes, mais je pense que je vais regarder surtout les prochains Jeux Olympiques d'hiver.
Ça doit être super sympa à regarder, vraiment.
Parenthèse, on a déjà regardé des matchs aux États-Unis. Moi, j'ai réussi à en voir vite fait de pré-saison. Il y a vraiment un engouement de ouf. Hein.
Ouais, je pense que c'est assez populaire. Je pense que je préférerais regarder un match féminin s'il y a moins de bagarres. Alors que franchement, si à la base, l'équipe masculine ne fait que se bagarrer pendant je ne sais pas combien dure le match, mais une heure ou une heure et demie.
Ouais, c'est 60 minutes, 2 fois 60, je crois.
C'est un peu long quand même de potentiellement de payer une place qui coûte relativement cher aux States pour aller voir des gens se bagarrer en fait.
Bon, après les Américains ils aiment bien la bagarre.
Oui, non mais ok. Mais,
Je suis d'accord, moi je préfère le côté technique, ça on est complètement d'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Vous avez aimé le Québec ? Nous aussi on aime le Québec, parce qu'on adore nos cousins de Québec. Dédicace à toutes les personnes qui aiment chanter à tue-tête, même faux en duo, au refrain de ce morceau. Pensez à quelqu'un qui vous est cher et chantez encore plus fort, mais faux, s'il vous plaît. Musique Maestro.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étoiles sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers.
Et bonjour à nouveau auditrices et auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1 Allegre FM, je suis toujours Cad, l'homme du 92, c'est bien dans l'émission Championne. On vient d'écouter qui, ma chère Sandrine ?
Céline Dion.
Ah, en featuring avec Jean-Jacques Goldman, Céline Dion la plus franchise des Québécoises. On l'embrasse, celle qui s'est déplacée pour nous pour notre cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, et ça c'était beau.
La pauvre, avec sa maladie en plus, elle a chanté merveilleusement bien.
Et c'était le morceau très connu de « J'irai où tu iras ».
Mon pays sera toi.
Ah, j'espère que vous allez chanter chez vous, bien sûr. Pour m'accompagner ce soir, j'ai la chance de partager le micro avec Sandrine, bien sûr. Jamais de sobriquet pour la troisième partie. Bien sûr, la régie en place, Diego Armando Maradona, toujours avec nous. Maintenant, nous allons parler de manière libre de l'évolution de l'image des sportives à travers le temps. Alors, warning, très important.
Oula.
Vous allez entendre des choses aberrantes.
Non, mais vous n'avez pas vu parce qu'il a étendu ses bras, l'air de dire c'est un sacré warning.
Donc, du coup, c'est un albatros ou un canard.
C'est pour ça que j'ai fait oula.
Vous allez entendre des choses aberrantes et le but est de faire réagir Sandrine sur ses propos. Comment le dire poliment, sexiste misogyne en vérité. Voilà, tu vas réagir tranquillement, sans t'énerver. Nous allons envoyer le jingle 1, j'explique, cela date de 1987.
Ma foi, je vais essayer. Après.
1987, jingle, c'est parti.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football...
C'est charmant.
Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche.
Alors, Les propos que vous venez d'entendre ont été tenus le 20 juillet 1987 sur le plateau de Chacun son tour, un plateau cycliste, de Marc Madio face à la grande Jeannie Longo, qui s'infrotte violemment sur la polémique et des propos sexistes que ce cycliste Marc Madio aurait dit à l'encontre du cycliste féminin. Alors je fais une parenthèse tout de suite. Marc Madio, il a gagné dans sa vie 2 championnats de France sur route, 2 classiques Paris-Roubaix, 1 étape de Tour de France. Jeannie Longo, c'est 76 médailles d'or sur 116 en carrière. De 1979 à 2025, cette année, elle a encore gagné. Voilà. Sandrine, réaction.
Alors, avant que tu dises tout le palmarès que cet homme absurde a eu. Non, mais avant que tu dises le palmarès que cet homme absurde a eu, j'avais qu'un mot. Jalousie, mec. En fait, t'es juste jaloux. Enfin, alors. J'aurais des insultes à dire, mais je crois qu'il vaut mieux pas que je les dise. Mais l'ego, la jalousie, enfin tout ça parce que c'est une femme, il faut la rabrouer, la rabaisser sur son périmètre ou sur ce qu'elle vient de faire parce que toi, homme, tu es incapable de faire le quart de ce qu'elle fait. Donc.
Et d'ailleurs, dans ses propos dans la vidéo, je ne les ai pas laissés, il a dit, je cite, « Je n'aime pas voir une femme souffrir, alors elle a rien à faire sur un vélo. » Parce que le vélo, c'est la souffrance.
Alors pour lui, visiblement, c'était la souffrance parce qu'il n'a pas gagné grand-chose. Donc je pense qu'effectivement, ça doit vraiment le faire souffrir. Mais pauvre de toi, va t'entraîner en fait. Parce que je crois que les athlètes ne s'entraînent pas, que peu importe le genre.
Bien sûr. Et c'est surtout qu'en fait, Jeannie Longo lui répond gentiment d'ailleurs dans l'interview. D'ailleurs, elle lui place à un moment donné « Laissez-moi parler » parce qu'il n'y a que des hommes autour d'elle.
Ah ben évidemment, ça les hommes, ils ne savent pas laisser la parole.
Voilà. Et du coup, elle lui dit qu'effectivement, si on aime les femmes, il faut les laisser faire leur passion et au contraire les soutenir dans ce qu'elles ont envie d'entreprendre. Je trouvais ça très beau, c'était en 1987. Très gentil de sa part.
Oui, totalement. Mais c'est au-delà du fait d'aimer les femmes, c'est juste de les respecter. C'est un être humain... à la même hauteur que la tienne, donc si elle, elle a envie de faire ça, tu la soutiens, point barre.
Et donc, nous parlons donc d'exclusion des femmes dans le sport. J'ai quelques exemples à te proposer. Par exemple, le golf, qui en fait est un acronyme pour dire « Gentlemen only, ladies forbidden », les gentilshommes, je te jure, les gentilshommes seulement, les ladies sont interdites, voilà. Messieurs seulement, femmes interdites, le golf, bien sûr.
Alors, je vais poser une pétition tout de suite pour que le nom de golf change.
Attends, c'est pas fini, c'est pas terminé. Après, je te laisse la parole. Inventé en Écosse au cours du 15e siècle, le golf était le sport interdit en femmes par excellence. Elles ont bien sûr investi ce sport en compétition à partir de 1990. Voilà, aujourd'hui, il y a une ligue féminine. Le golf peut être pratiqué par les femmes. Mais jusqu'en 1990... Gentlemen only, ladies forbidden. Un avis sur cette exclusion des femmes, s'il te plaît.
Depuis 1990.
Oui, seulement.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu te rends compte qu'ils ont tellement peur qu'ils ont, dans l'acronyme de leur sport, ils ont précisé que c'était interdit aux femmes. Tellement, en fait, ils ont peur. Non, mais en fait, la connerie va loin. Hein. Ouais. Vraiment. Hein. Alors que le pied de nez, c'est qu'à la limite, maintenant, il y a des femmes qui jouent au golf. Et pourtant,
et qui ont des
c'est
bons
interdit.
Records. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est de me dire, mais...
Ah, mais je savais pas.
Mais pourquoi ce sport n'a rien de spécial. Tu frappes dans une balle, ok, il faut de la précision, de la finesse. Mais pourquoi interdit aux meufs, ça n'a aucun sens.
Mais tu sais que je pensais que c'était le nom, clairement, du sport et pas un acronyme.
C'est un acronyme, sache-le.
Ah, je suis choquée.
Vous venez de l'apprendre chez vous, je le sais. Certains se sont tirés les peu de cheveux qu'il leur restait.
Non, mais je...
Alors, et pour continuer, envoyez le jingle numéro 2. Attention, warning, écoutez bien. Maestro.
Beaucoup de charme, hein, Valentina. Un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon. En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Alors, nous sommes en 2014. Je sais qui c'est. Oui, je vais dire. Nous sommes en 2014 sur France Télévisions. Christophe Candeloro, qui, au demeurant, à la base, j'aime bien vraiment, mais là, je pense qu'il a dévissé, tient des propos pas très ouf. Alors, au-delà de ces propos, bien sûr, là, on parle de l'érotisation, la sexualisation des corps féminins. Alors, déjà, je voudrais ton avis.
2014, tu m'as dit ?
2014.
Waouh. C'est. Potentiellement, la personne aurait pu porter plainte. Vraiment. Non, mais enfin, tu dis pas ça.
Canadienne Valentina.
Non, mais tu dis pas ça à la télévision. C'est hyper déplacé. Surtout qu'en plus, potentiellement, le patinage, il est regardé par des enfants. Donc, les enfants, ils comprennent pas ce genre de truc. Ils vont penser à un anaconda sur la meuf qui est sur le patin.
Elle se fait attaquer par un serpent.
Elle comprend. Oui, c'est possible. Mais.
Voilà.
Et pourtant, je l'aimais bien, ce mec.
Mais moi, je l'aime bien. C'est juste que là, je pense qu'il a dévissé.
Après, je pense qu'il est brut de décoffrage et qu'il dit ce qu'il pense, mais parfois, il vaudrait mieux fermer sa bouche que dire ce genre d'énormité, en fait.
Je suis complètement d'accord. Donc, sur l'érotisation du corps féminin dans le sport, évidemment, les tenues. Alors, les tenues, c'était un grand débat dans le sport. C'est voilà où je voulais en venir sur ce sujet. Certaines filles ont des tenues, c'était le cas du beach volley, on en a parlé dans des précédentes émissions, où les filles étaient obligées d'avoir un slip, alors que les mecs avaient un short, alors que c'est du beach volley, je sais pas, aucun intérêt, si ce n'est en fait montrer leur popotin. Il y a aussi l'athlétisme pendant très longtemps.
La natation aussi.
Je vais te laisser parler de la natation. Dans l'athlétisme, pendant très longtemps, c'était interdit déjà de mettre des petits détails comme du vernis ou ce genre de choses qui est très féminin, très cool. Mais surtout, il y avait ce slip qui rentre dans le derrière. Marie-Josée Pérec le connaît. Alors qu'en fait, les mecs avaient le droit à des cyclistes, tout simplement, pour courir. Mais vas-y, je te laisse pour la natation.
Alors effectivement, sur ce que tu dis, oui, déjà, en fait, si tu veux, on ne prend pas en compte le confort de l'athlète. Peu importe le sport que l'athlète doit pratiquer, on ne prend pas le confort des athlètes féminines, tout en sachant quand même qu'il faut mettre en avant quelque chose quand même de différent par rapport aux genres masculins, c'est que les femmes ont leurs règles.
Oui.
Donc potentiellement, il y a des moments ou des périodes, que ce soit même au-delà de la période des règles, il y a la période avant, la période après, potentiellement on se sent peut-être moins bien dans son corps avec les hormones ou quoi que ce soit. Et en plus, pendant la période des règles, quand l'athlète a de la chance de ne pas avoir des maladies telles que l'endométriose, potentiellement, enfin, on perd du sang, quoi. Donc, mettre des slips à un tout petit peu d'épaisseur alors que je suis obligée de faire des rondes jambes et monter ma jambe au-dessus de ma tête, c'est un peu compliqué. Donc, en termes de confort, alors, je ne comprends pas qu'on mette pas plus d'importance justement pour les mettre en confiance et pour les protéger pendant cette période ou non, mais les mettre simplement dans quelque chose où elles se sentent bien, où elles se sentent à l'aise, et que ce soit... si elle est bien en slip, elle est en slip. Si elle préfère être en cycliste, elle est en cycliste, en fait. Et le souci, c'est que, comme tu dis, on met en avant le corps des femmes pour sexualiser, parce qu'ils pensent, alors à mal, mais en tout cas, c'est un des arguments, qu'en sexualisant le corps de la femme, ça va attirer les hommes à regarder le sport. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que en fait, il n'est pas retransmis, le sport féminin. Donc, concrètement...
L'argument, le meilleur argument, tu m'as fini, là. Bravo.
Non, continue, mais concrètement, ça sert à quoi? Puisque de toute façon, tu ne le transmets pas. Donc, ça n'a pas de sens. Et pour parler à la base de natation, pendant très longtemps, en fait, on nous imposait de mettre certains maillots de bain, donc à savoir une pièce, machin, avec certaines marques. Voilà, et maintenant tu vois qu'il y a certaines, elles mettent des combinaisons entières de la tête aux pieds, en fait, et alors tu vas voir ça, et puis à côté tu vas en avoir une qui va pas l'avoir ou quoi que ce soit. L'important, c'est en fait qu'elle soit que ce soit même pour les hommes. Mm-hmm. L'important, c'est qu'en fait elle pratique le sport dans la tenue qui lui plaise le plus, ou elle est
plus performante, en fait, tout simplement.
Si elle a envie d'être en jogging avec des chaussettes moumoutes et que ça va rien enlever à sa performance.
Justement, elle est assez intelligente et professionnelle pour savoir quelle tenue est la meilleure pour elle, et les tenues imposées ne sont pas forcément celles qui sont les plus performantes en plus.
On met une femme à poil pour vendre un yaourt, donc jusqu'à ce principe là
Très bon argument. Alors, pour terminer sur la partie vestimentaire, le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. Pourquoi cette réflexion? Puisqu'en octobre 2023, le ministère des Sports français était épinglé par l'ONU pour avoir interdit à ses sportifs de porter le voile lors des Jeux de Paris 2024. Depuis plusieurs Olympiades, les tenues des sportifs suscitent le débat, le signe d'une révolution. Effectivement, si la Cour, désolé, mais si le Haut Commissariat aux droits de l'homme, il a dit on n'impose pas, fin de l'histoire.
Non, mais si tu veux, il n'y a pas si longtemps que ça, alors je ne sais plus quel athlète c'était, malheureusement, j'ai plus son nom. J'en suis désolée, mais c'est une joueuse de tennis. Je crois que c'est du tennis ou du hand, je ne sais plus. Et du coup, en fait, elle est en période de règles, et donc elle s'absente pour aller aux toilettes, tout simplement parce qu'elle en a besoin. Et donc, elle prend un petit peu plus de temps parce que justement, elle est en période de règles. Et du coup, quand elle revient, elle n'a pas pris un temps de fou, mais quand elle revient, elle a dépassé le temps. Elle a pris une amende. Mais
c'est
elle
lui tennis,
a dit,
ça.
Enfin.
Ouais, non, mais c'est grave.
Donc, je ne comprends pas qu'on ne prenne pas ce. Alors, on va te dire, les femmes, elles sont faites pour faire des enfants, mais par contre, quand c'est les règles, on va rien faire pour faire... Alors que ça va ensemble, en fait. Mmh. C'est
complètement aberrant. Tout le monde n'a pas fait des cours de biologie. Hein.
Ouais.
Alors, il nous reste peu de temps, mais on va quand même envoyer le jingle 3, parce que j'ai un truc à dire dessus.
Le contrôle du corps des femmes dans le sport, il est permanent. On t'agite sous le nez ton assignation première, qui est d'être belle avant toute chose. Et donc, ça donnait lieu, en tout cas pour moi, et pour beaucoup, je pense, à des injonctions assez contradictoires. Je pense à ces filles dont j'ai fait partie, qui se mettaient du mascara, d'autres qui se mettaient du fond de teint, alors que dans 5 minutes, tu vas transpirer, ça va te couler dans les yeux. Finalement, ta féminité, c'est ton seul gage de médiatisation. Je me suis toujours dit, mais finalement, si j'avais été moins jolie, est-ce que j'aurais eu aussi rapidement ces sponsors ?
Propos de Mélissa Plaza, ex-footballeuse pro sur Combini en 2022, qui effectivement, elle a raison. C'est-à-dire que...
Oui, c'est pas faux.
C'est un gros problème, ça.
J'avais pas vu ça de ce point de vue-là, mais effectivement, c'est pas faux.
Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un système qui s'auto-nourrit. D'ailleurs, il faut savoir que Combini, les revenus des sportives représentent moins de 12% des revenus des 20 sportifs les mieux payés au monde. C'est-à-dire que le total combiné des revenus des sportifs, d'accord, c'est moins de 12% des 20 sportifs masculins les mieux payés au monde, c'est important. Donc effectivement, les analyses montrent que les femmes sont sous-représentées et plus souvent sexualisées que les hommes dans la publicité. Par exemple, un corpus d'annonces étudié en 2018, les femmes représentaient 40% des personnages, mais étaient nettement plus souvent sexualisées, vêtements révélateurs, cadrage sur le corps, que les hommes. Voilà.
Et un truc que je t'avais appris justement, c'est que quand tu regardes un film ou quand tu regardes une série, si une nana, elle a les cheveux attachés, elle ne sera pas sexualisée. Si la nana, elle a les cheveux détachés, si elle a les cheveux longs, évidemment. Si la nana, elle a les cheveux détachés et donc automatiquement, elle sera sexualisée, que ce soit par sa tenue, par son dialogue, par son attitude, elle sera sexualisée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la femme, elle ait les cheveux longs, qu'elle ait des talons, il y a des stéréotypes à faire. Si tu vois une meuf, elle a les cheveux attachés, t'es tranquille, elle sera pas sexualisée. Et je t'avais dit ça, tu m'avais dit, mais non, mais truc de fou. Ouais, et en fait, à regarder plusieurs trucs, tu t'es rendu compte et tu m'as dit, ah, mais ouais, en fait.
Complètement.
Je vois la nana, elle se retire les trucs, ça y est, elle secoue les cheveux et c'est parti, sexualisation, plan, gros plan, machin. Bon, ça, c'est. Pour le coup, c'est autre chose, c'est au cinéma, mais voilà. En tout cas, pour ce qu'elle a dit. Je trouve que c'est ouais, la manière dont elle amène ça, j'avais pas vu ça de cette façon là mais en même temps je pense qu'il y a certaines, alors beaucoup dans l'athlétisme, mais je pense qu'il y a certaines athlètes, elles ont besoin d'avoir une petite touche féminine, parce que justement en fait ils sont tous pratiquement habillés pareil, elles ont toutes pratiquement le même gabarit, parce que bah, c'est des athlètes, donc voilà. Et donc, elles mettent un peu de rouge à lèvres, pas de rouge à lèvres, de vernis, ou alors elles font des tresses, ou elles mettent des trucs dans les cheveux. Je pense que c'est aussi une manière pour elles de...
De s'affirmer.
Ouais, je pense. Donc, il y a ça, et il y a effectivement l'argument qu'elle a avancé sur le fait... Oui, je pense que sincèrement, alors je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette jeune fille, mais je pense que sincèrement, si elle avait été moins jolie, oui, elle aurait été moins mise en avant.
D'ailleurs, je pense qu'on en fera un sujet la prochaine fois que tu viens sur ça, sur le fait que si tu n'utilises pas ta féminité pour gagner des sous, bah, en fait, tu n'as pas de sponsor. Mais en même temps, comme tu as dit, c'est réducteur parce qu'on ne va pas s'intéresser forcément à ta perf.
Voilà, ce n'est pas vraiment ta féminité que tu mets en avant, c'est ta sexualité.
Oui, pardon, tu as compris. Nous arrivons donc à la fin, il faut aller très très vite, il nous reste 15 secondes. Merci Diego Armando Maradona, merci beaucoup Sandrine d'être venue.
Je t'en prie.
C'est le mot de la fin dans 2 secondes. La Fédération Française de Hockey sur Glace sur Instagram, c'est @FFN_officiel. La Fédération Internationale, c'est @IINF. Ok, ne me demandez pas pourquoi. @Pou29, c'est Marie-Philippe Poulain, on l'embrasse. Et bien sûr sur Facebook, Quiz de Foot, un ami qui vous veut du bien. La PETA, toujours.
J'allais dire la PETA.
Oh, et je te laisse le mot de la fin.
Pour paraphraser mon cher ami Tommy, fin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.